France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis qui regardent vers le ciel aujourd'hui. Des premiers relevés des astres consignés à la disparition progressive du ciel étoilé, l'exposition « Lire le ciel » proposée cet été au MUCEM à Marseille nous raconte une histoire de projection, de circulation, de croyances, d'imaginaires et de savoirs parfois mêlés. Nous y croisons des globes célestes, des astrolabes, l'astronome de Vermeer et les satellites d'Etel Adnan, mais aussi Nostradamus, une montre solaire de Berger et les robes de peau d'âne. Les deux commissaires de ce grand voyage, Juliette Bessette et Enguerrand Lascols, sont ce midi nos invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Juliette Bessette, vous êtes historienne de l'art à l'Université de Lausanne. Vous travaillez sur les imaginaires scientifiques et techniques à travers les arts et la culture visuelle. Enguerrand Lascols, vous êtes historien de l'art également, conservateur du patrimoine au MUCEM. Et vous êtes donc tous deux commissaires de cette exposition « Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée » proposée jusqu'au mois de janvier. Le catalogue est publié par les éditions du MUCEM et de la RMN Grand Palais. Alors peut-être que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est une exposition qui regarde le ciel depuis la Terre. Il ne faut pas aller y chercher de la conquête spatiale, ça n'est pas le propos, Enguerrand Lascols.
Tout à fait. C'est une exposition qui se tient au MUCEM. Le MUCEM, c'est un musée de société. Et donc, ça nous a semblé vraiment important, en fait, d'insister sur le regard des sociétés humaines du bassin méditerranéen sur le ciel étoilé. Donc, on est toujours d'un point de vue terrestre. Et on va venir s'intéresser, en fait, à la manière dont les humains, autour du bassin méditerranéen, ont pu contempler le ciel étoilé, imaginer des formes, l'étudier, mais également s'en servir pour se situer dans l'espace, voyager.
Et ce qui est exploré, c'est la manière dont le ciel est un espace de projection des sociétés, Juliette Bessette.
Oui, en effet, cette idée de lire le ciel, c'était aussi l'idée de regarder la voûte céleste en deux dimensions. Et c'est grâce à cette dimension de projection depuis la Terre qu'on voit qu'on projette dans le ciel des constellations, des signes, des animaux dans les périodes les plus anciennes, ensuite des récits, et que c'est à toutes les périodes, c'est toujours le reflet de préoccupations humaines.
Il y a cette idée du miroir qui renvoie aussi quelque chose, puisque on lit le ciel depuis la Terre et on attend du ciel qu'il nous dise quelque chose de la Terre en retour.
C'est probablement parce qu'on ne peut pas y aller qu'on projette sur lui la possibilité de parler de nous-mêmes. Et en effet, on va y lire des signes, on va y lire surtout dans les irrégularités, par exemple le passage d'une comète, mais aussi avec l'astrologie, les conjonctions des astres, des planètes dans les constellations. On va chercher à savoir ce que ces astres vont pouvoir nous dire à la fois de ce qu'il va pouvoir se passer sur Terre, par exemple l'arrivée d'une maladie, d'une guerre pour les périodes les plus anciennes, et puis dans les périodes les plus récentes, peut-être une astrologie plus individualiste, quels vont être nos caractères, qu'est-ce qu'on devrait faire dans le futur.
Alors, on va en reparler, bien sûr. Vous l'avez dit, Enguerrand Lascols, le MUCEM est un musée de société. C'est le musée des civilisations de l'Europe et des Méditerranées. Et vous avez là, donc, un ancrage méditerranéen, sous les étoiles en Méditerranée. Cette culture du ciel-là commence, pour ce qu'on en sait, en tout cas les premières traces sont en Mésopotamie. Quelles sont ces traces, Enguerrand Lascols?
Alors, en effet, nous, on a pris le prisme de la Méditerranée. On tient souvent à rappeler quand même qu'il y a une infinité de cultures du ciel, selon les cultures dans le monde, évidemment. Il y a énormément de sociétés qui ont imaginé des formes, qui se sont projetées. Nous, on a vraiment pris le prisme de la Méditerranée, parce que déjà, c'est le cadre géographique du MUCEM, mais en plus de ça, c'est un cadre géographique assez intéressant pour étudier l'astronomie, puisqu'en fait, c'est en Mésopotamie qu'on a les premières traces écrites de relever des étoiles, des noms de constellations. Et en fait, il va se passer, donc là, on est à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, il va se passer durant toute la période antique un phénomène d'aller-retour entre les rives de la Méditerranée qui va construire l'appréhension qu'on a aujourd'hui du ciel étoilé. Donc l'héritage méditerranéen est primordial, en fait, dans la manière dont on conçoit le ciel aujourd'hui. nos noms de constellations. La plupart viennent du monde gréco-romain antique qui eux-mêmes en avaient hérité certaines du monde mésopotamien. Nos noms d'étoiles, il y en a énormément qui viennent du monde arabo-musulman médiéval qui eux-mêmes s'inscrivaient dans la continuité des savants grecs de l'Antiquité. Donc il y a vraiment une sorte de chaîne de transmission des savoirs et des connaissances qui nous a beaucoup intéressés, sur lequel on insiste beaucoup dans l'exposition. On parle beaucoup de ces transmissions, de ces métissages et de cet héritage qui est le nôtre aujourd'hui.
Mais donc, avant d'en venir à l'héritage, si on remonte justement, là, quand vous dites Mésopotamie, donc qu'est-ce que c'est les traces, les premières traces concrètement, qu'est-ce qu'on voit quoi ?
Les premières traces, c'est vraiment des traces écrites, c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette exposition « Lire le ciel », c'est que nos premières connaissances, en fait, c'est sur des tablettes d'argile, écrites en cunéiforme, qui vont venir lister les noms d'étoiles, lister les constellations. On est vraiment déjà dans une volonté de comprendre les cycles des planètes, les cycles des étoiles.
Et de cartographier le ciel d'une certaine manière.
De cartographier, en effet. Ça, c'est hyper important, cette idée de la cartographie, parce qu'en fait, c'est à travers l'imagination, les humains vont imaginer des formes dans le ciel. Ça a un intérêt scientifique, en fait. Ça permet de se repérer, de se situer par rapport aux étoiles. Et donc, les premières traces connues, c'est sur des tablettes d'argile. Et il va y avoir également des représentations imagées. On présente dans l'exposition la première sphère céleste connue qui date probablement du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui représente en fait sur toute la sphère, c'est une toute petite sphère qui fait la taille d'un point et qui représente sur tout le pourtour toutes les constellations qu'on connaît toujours aujourd'hui et donc qui est un objet fondamental et extrêmement précieux puisque c'est la première représentation connue sur une sphère de ces constellations.
Oui, lire le ciel, c'est l'écrire, c'est le dessiner beaucoup, Juliette Bessette, et on plaque en fait des figures connues sur les motifs du ciel.
Oui, c'est vraiment ce qui nous a intéressé dans cette idée du dessin, c'est aussi que c'est par l'écrit et par le dessin qu'on fixe une culture commune. Les tout premiers textes qu'on connaît écrits, c'est des textes souvent administratifs, de loi, de commerce, mais c'est aussi des textes d'astronomie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et en effet, nous, on s'est intéressé en particulier au dessin, aux constellations, ce petit globe dont parle Enguerrand, qui est un tout petit globe en argent, qui vient de Turquie. Il est vraiment très précieux, il montre tous les signes du zodiaque sur la ligne qu'on appelle l'écliptique, sur laquelle il est... voilà, c'est le passage du soleil dans ces signes du zodiaque. Et on y reconnaît vraiment les motifs des constellations. On voit aussi la Grande Ourse, par exemple, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui en Mésopotamie était un chariot. Aujourd'hui, on l'appelle souvent la casserole, parce qu'on voit seulement une partie de la Grande Ourse, justement, peut-être à cause de la pollution lumineuse. Mais en tout cas, c'est vraiment ces mêmes motifs qu'on connaît toujours aujourd'hui, qu'on retrouve sur l'étiquette d'astrologie, cet imaginaire qui berce aujourd'hui notre rapport au ciel.
Des écrits, des dessins, il y a par exemple le livre des étoiles fixes d'Al-Soufi que vous mettez en regard dans l'exposition avec les gravures d'un artiste contemporain, Mohsin Araki, le ciel dessine la terre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça un peu l'un et l'autre, c'est-à-dire le livre des étoiles fixes et ses gravures ?
Donc le livre des étoiles fixes, c'est un ouvrage qui est fondamental pour tout le monde arabo-musulman médiéval. C'est un livre qui a été écrit par un savant qui s'appelle Al-Soufi et qui liste en fait les différentes constellations du ciel avec les étoiles qui les composent, leur intensité. Et c'est un ouvrage très important parce que il a été diffusé dans tout le monde arabo-musulman, de l'Espagne à l'Asie centrale. Ça a été un ouvrage de référence qui s'inscrivait directement dans la continuité d'un ouvrage de l'Antiquité d'un savant grec qui s'appelait Ptolémée, qui vivait à Alexandrie au 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, c'est une reprise directe, mais avec quelques adaptations. Il y a par exemple des constellations qui sont représentées, qui sont propres à la culture bédouine, donc qu'il n'y avait pas dans le livre l'Almagest de Ptolémée, pardon. Et c'est un ouvrage qui a été diffusé vraiment, qui a fait référence qui a inspiré donc Mohsin Araki. Je laisse la parole à Juliette.
On a pensé une exposition, en fait on pourrait dire chronothématique, c'est-à-dire qu'on commence dans l'Antiquité, on va vraiment jusqu'aux moments les plus contemporains, et on a tenu à intégrer de l'art contemporain tout au long du parcours, qui vient nous parler des thématiques qu'on traite dans chacune des salles, mais avec une perspective plus contemporaine. Et en l'occurrence, on a trouvé cette très belle œuvre de Mohsin Araki, qui est constituée de plaques de métal gravées, qui reprend 30 constellations, qui viennent du livre des étoiles fixes et qui reprennent aussi ce style lié au monde arabo-musulman, à cet âge d'or de la science de l'astronomie arabo-musulmane. Il associe sur ces plaques gravées, ces très beaux dessins, des constellations à des qualités humaines, le courage, la bravoure, etc. Et donc ça vient vraiment dialoguer à la fois formellement, mais aussi dans les idées, dans cette continuité des croyances, en une correspondance entre le microcosme et le macrocosme, entre une croyance en l'influence du ciel sur les qualités humaines. Ça vient vraiment, c'est des œuvres de périodes très différentes qui viennent dialoguer entre elles. On est très contents de ça.
À la fois donc des points qui fixent précisément les constellations et des figures d'animaux en particulier qui en fait relient ces points, et donc on a ces deux formes de lecture qui se superposent. Comment on projette des images connues sur des motifs du ciel, ce qu'on disait plus tôt. Alors on l'entend là, c'est vraiment une histoire de circulation, de transmission, de traduction. C'est assez impressionnant de suivre effectivement entre cette Mésopotamie, la Grèce antique, puis vous l'avez dit, le Moyen-Âge arabo-musulman, la façon dont en fait tout ça est lu, relu, avec une approche critique aussi, parce qu'à chaque fois c'est enrichi. Et peut-être il faut revenir sur cette figure que vous avez citée, pour le coup, donc là on revient à la Grèce antique, c'est Ptolémée. Ce qui est intéressant, c'est que ce Ptolémée, il a écrit à la fois sur l'astronomie et l'astrologie, dont vous montrez qu'en fait, pendant longtemps, les deux fonctionnent ensemble. Et ce sont les mêmes qui font les deux, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Dès les premières traces en fait écrites d'une étude du ciel, il va y avoir une volonté d'étudier ce ciel et d'y voir des présages et un lien entre le macrocosme, donc le gigantesque des astres qui est au-dessus de nous, et le microcosme, donc le vivant sur Terre. Et en effet, en fait, jusqu'à en fait la période moderne, astronomie et astrologie étaient deux disciplines qui étaient distinctes. Hein, c'était pas une seule et même discipline, c'était deux disciplines différentes, mais qui étaient exercées par les mêmes savants. Et Ptolémée, c'en est le représentant le plus connu. C'est quelqu'un qui a écrit l'ouvrage de référence en termes d'astronomie, qui vient lister les constellations, mais en même temps, il a aussi écrit l'ouvrage de référence en termes d'astrologie. C'est un savant en fait qui vivait à Alexandrie au IIe siècle après Jésus-Christ, à un moment où Alexandrie est une capitale culturelle essentielle du bassin méditerranéen. On est après la conquête d'Alexandre le Grand, qui est parti jusqu'aux rives de l'Indus et qui va venir centraliser toutes les savoirs, toutes les connaissances dans cette capitale qui crée Alexandrie, qui va être un lieu de référence avec la bibliothèque, évidemment. Et Ptolémée, c'est quelqu'un qui va vraiment s'inscrire dans cet héritage des connaissances et qui va venir synthétiser tout ça, en quelque sorte, les connaissances qui viennent d'énormément de régions du bassin méditerranéen, de régions du Moyen-Orient, du Proche-Orient, jusqu'à l'Indus, qui le monde indien était aussi très important dans la construction des savoirs astronomiques. Et il va venir synthétiser tout ça et écrire les ouvrages de référence en termes d'astronomie et en termes d'astrologie, qui vont faire date, en fait, jusque à la période moderne, qui vont constituer les ouvrages de référence dans le monde arabo-musulman également. On présente dans l'exposition un ouvrage prêté par la Bibliothèque nationale de France qui montre une traduction de l'Almageste en arabe, qui montre la postérité en fait de cet ouvrage.
Et il y a aussi une enluminure de la fin du 15e, je crois, qui représente Ptolémée et qui montre aussi qu'il a bien traversé les siècles en tant que, y compris, personnage. Alors, évidemment, on le rappelle là, pour toute cette très longue déjà période dont on parle, nous sommes dans le géocentrisme. On pense alors que la Terre est au centre de l'univers. Il y a aussi dans l'exposition, par exemple, une fresque de Pompéi qui montre Apollon tenant dans sa main l'univers, cette idée du globe céleste, de la sphère, qui est très présente de différentes manières. Et ce qui va découpler véritablement astronomie et astrologie, c'est Copernic puis Galilée, dont parle Fernand Lotte en 1960 à la radiodiffusion télévision française, la RTF.
Au début de l'année 1609, il était alors lecteur à l'université de Padoue, Galilée apprit que l'on avait construit au-delà des Alpes une lunette spéciale qui faisait voir les objets lointains, agrandis et nets. Durant quelque temps, il n'accorda aucun crédit à cette information sensationnelle. Mais il finit tout de même par y repenser et pressentit que cet instrument pouvait être très précieux. Il se mit à construire des lentilles et des lunettes de ses propres mains. Galilée parvint à porter le grossissement de la lunette de 3 à 30 et même un peu au-delà. Et c'est alors que la lunette commença à porter le nom qui lui resterait de lunette de Galilée. Galilée ne tarda pas à orienter ses lunettes vers le ciel et ce fut pour y faire immédiatement de mémorables découvertes.
Alors, que découvre-t-il ? Enguerrand Lascaux avec sa lunette.
Il découvre énormément de choses. Cette idée de l'enjeu de la lunette est hyper important parce qu'en fait, jusqu'au début du XVIIe siècle, les observations se faisaient à l'œil nu. Et en gros, à l'œil nu, on arrive à voir à peu près 3000 étoiles. Et avec une lunette, on va se rendre compte, en fait, et notamment Galilée et d'autres savants aussi vont se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres étoiles qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Que en fait sur la Lune, la Lune en fait elle est toute cabossée. Il y a des cratères qui la parcourent. Il y a des lunes qui tournent autour de Jupiter. Et donc il va y avoir en fait énormément de découvertes qui vont vraiment révolutionner le monde des savoirs, puisque on était jusqu'alors dans un modèle géocentrique où on a l'impression que les étoiles étaient toutes sur la même sphère. C'est ce qu'on appelait les étoiles fixes, ces 3000 étoiles qui nous tourneraient autour, et puis tout à coup il va y avoir c'est pas aussi radical, mais en tout cas à cette période il va y avoir une vraie transformation des savoirs qui s'inscrit dans l'héritage des savoirs arabo-musulmans et antiques, évidemment, mais qui est aussi dû à cette révolution technologique où on se met à regarder le ciel avec une lunette.
La Terre tourne autour du Soleil. Qu'est-ce que cela change ? Alors, scientifiquement, du point de vue des savoirs, bien sûr, on sait que ça change énormément de choses. Mais dans le rapport au ciel, dans les lectures du ciel, qu'est-ce que ça change, Juliette Bessette ?
Alors c'est difficile de savoir ce que ça a vraiment changé à l'époque. Sur le plan scientifique, évidemment, c'est une révolution conceptuelle totale. C'est quelque chose qui met du temps à être accepté par l'Église. Avant Galilée, il y avait Copernic qui avait formulé cette hypothèse, qui n'avait pas les moyens instrumentaux de les vérifier, mais qui avait, par des observations et des calculs, formulé l'hypothèse. Il y a même des hypothèses dès l'Antiquité selon lesquelles la Terre n'est pas au centre de l'univers. Mais ça, c'est très difficile à faire accepter puisque toute notre cosmologie est ancrée là-dedans. Donc d'un point de vue scientifique, on se rend compte qu'en effet, ces constellations dont on parle depuis le début, qu'on voyait comme des étoiles sur un même plan, qui formaient donc des dessins, sont en fait, pour certaines, à des centaines d'années-lumière les unes des autres. Elles n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, si ce n'est par ce prisme visuel depuis la Terre. Tout ça s'écroule, tout ça se fissure. On a au XVIIe siècle également, à la fin du XVIIe siècle, les travaux de Newton, de la gravitation universelle, qui cette fois mettent en cause quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a des lois de la gravitation qui ont lieu sur les corps qui ont des masses, y compris dans l'espace. Donc en fait, les mêmes lois physiques régissent l'espace qu'on appelle sublunaire et supralunaire, c'est-à-dire notre monde à nous et le monde du ciel. Tout ça, ça fait s'écrouler aussi les systèmes comme l'astrologie, puisque les correspondances ne peuvent plus fonctionner s'il n'y a plus cette hiérarchie. En revanche, d'un point de vue terrestre que l'on garde dans l'exposition, et c'est ce qu'on a essayé de montrer, ça ne change pas grand-chose parce que le soleil continue à se lever le matin, à se coucher le soir, l'étoile du berger également. Donc nous, on a créé dans l'exposition une salle qui est une très belle salle, qui accueille justement l'astronome de Vermeer, des sphères héliocentrées qui montrent cette révolution des lunettes, des relevés des satellites de Jupiter, mais on continue le parcours avec toujours ce point de vue terrestre pour lequel ça ne change pas forcément grand-chose.
Et voilà, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette question de qu'est-ce que ça change, vous la posez, vous, dans le catalogue à Frédéric Aitwati, qui fait partie du comité scientifique de l'exposition, et qui explique bien, en effet, que parce qu'il y a la relativité galiléenne, la révolution galiléenne, finalement, ne change rien pour l'expérience commune, parce que lorsqu'on regarde le ciel depuis la Terre, on peut toujours penser être au centre. Donc, effectivement, et ça, c'est à partir de là que astronomie et astrologie vont se séparés, mais il y a donc tout un courant du savoir qui continue, mais il y a aussi à partir de là un ciel populaire, ce que vous appelez le ciel populaire dans l'exposition, qui propose d'autres rapports finalement au ciel. Si on revient juste une minute à la lunette de Galilée, nous sommes donc au début du XVIIe, vous l'avez dit, Enguerrand Lascol, c'est de ce siècle que date en effet l'un des tableaux qui vous a été prêté par le Louvre pour cette exposition, l'astronome ou l'astrologue d'ailleurs, il y a un doute sur le titre, de Vermeer.
On est ravis en fait d'accueillir un chef-d'œuvre du musée du Louvre, l'astronome de Vermeer. Donc Vermeer, c'est cet artiste des Pays-Bas du milieu du XVIIe siècle qui est très connu pour ses peintures qui montrent des scènes de vie intérieure, des scènes de vie intime. Et en France, on conserve deux peintures de Vermeer, toutes deux au musée du Louvre. C'est une œuvre qui est assez rare. En fait, on connaît dans le monde une trentaine de tableaux de cet artiste. Et on a la chance donc de présenter dans l'exposition l'astronome de Vermeer, dit aussi l'astrologue en effet, qui est une peinture qui date de 1668 et qui représente donc un astronome dans l'intimité de son cabinet en train de contempler, d'étudier un globe céleste. Et au-delà du fait que c'est voilà un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, on est vraiment ravis de le présenter, rien que pour des critères esthétiques, c'est une merveille. Il est hyper intéressant dans le propos de l'exposition, puisqu'en fait on peut voir sur la table de cet astronome un ouvrage qui est ouvert à une page qui dit que les premiers astronomes vivaient durant l'Antiquité. Et à côté, il y a un astrolabe persan. L'astrolabe, c'est un outil qui permet de se repérer, de connaître l'heure grâce aux étoiles. C'est un symbole vraiment de l'âge d'or de l'astronomie dans le monde arabo-musulman. Et donc, l'œuvre de Vermeer, elle s'intègre très bien aux propos de l'exposition parce qu'elle montre en quelque sorte cette transformation des savoirs, cette révolution scientifique que les artistes cherchent à figurer au milieu du XVIIe siècle, mais tout en l'inscrivant dans l'héritage de l'Antiquité méditerranéenne ou du monde arabo-musulman.
Oui, vous écrivez à propos de cet astronome assis à son bureau, penché vers son globe, il incarne puissamment la recherche de la connaissance. Il y a un autre tableau d'astronome d'ailleurs aussi, celui de Luca Giordano, qui est de la même époque à peu près. Donc on voit quand même aussi qu'il y a ce besoin ou ce désir de représenter cette figure très importante qui s'inscrit effectivement dans une longue histoire. Donc, l'univers ne tourne pas autour de la Terre, astronomie et astrologie vont se découpler, et c'est là en fait que l'astrologie va devenir un système de croyances, J.F. Bessette.
Oui, on a travaillé sur cette séparation, et en même temps en essayant de continuer à faire communiquer ces moyens de se relier au ciel. En fait, nous, c'est ce qui nous a intéressé. Ce qu'on a voulu faire dans l'exposition, c'est regarder actuellement, on est parti du présent, quels étaient le lien des gens aux étoiles, et on a, par notre travail sur l'exposition, rencontré différentes personnes qui se reliaient au ciel de manière très scientifique, des astrophysiciens pour qui d'ailleurs l'observation à l'œil nu n'est pas forcément quelque chose de très important, des astrologues qui regardent aussi des cartes théoriques du ciel, des gens qui au contraire regardent beaucoup le ciel, les astronomes amateurs, on a travaillé avec une navigatrice qui se repère avec les astres, on a créé des petites capsules vidéo qui montre ces personnes. Et donc vraiment, il y a eu aussi cette idée de faire communiquer autour de l'exposition cette culture de la croyance de l'astrologie et la culture plus scientifique de l'astronomie.
Alors, dans ces capsules vidéo, il y a aussi un berger. La figure du berger est aussi importante dans l'exposition, qui exprime finalement un rapport au ciel qui perdure. On va pas entendre le berger qui est en vidéo dans l'exposition, on va entendre un extrait du livre « Le serpent d'étoiles » de Jean Giono, que vous citez aussi dans l'exposition.
On prit les quartiers d'été dans une haute pâture au parage du col de la Croix. Les glaciers avaient pris tout ça dans la main et l'avaient haussé jusque contre le ciel. De grands doigts glacés tenaient l'herbe, c'était du gras à rendre fou toute bête saine. Il y avait des rennes des prés épaisses comme de la crème de lait, et rien qu'à marcher dans les pacages, les semelles des espadrilles en étaient vertes de jus. Je restais de longs jours renversé sur le dos, suçant ma flûte, poussant de temps en temps quelques petites notes frisées. Mon sang se calma, mais j'avais gardé l'expérience. Et de plus en plus, surtout aux heures du soir, je pensais au dire du Bouscarle et j'écoutais le pas des grands dieux. Je buvais du ciel, à longues goulées, comme l'eau au bassin de cette fontaine où j'avais miré mon premier rayon de berger. Les moutons étaient répandus dans toute la combe et sur les versants. Ils s'en allaient jusqu'aux abords d'un village maigre comme un pauvre. Je vais vous dire le secret. Le vrai métier du berger, un seul l'enseigne, le ciel. Dans ma vie d'après, j'ai longtemps pesé, sous-pesé, et fait passer d'une main dans l'autre tous les mots de Bouscarle, et j'ai compris que chacun de ces mots voulait dire deux choses. Une chose qu'on comprenait tout de suite, une autre chose qu'on comprenait avec le temps, tout doucement. Le Jésus, ça n'est pas le grand large, c'est ce petit bout de nuit, là-bas, avec une étoile, une seule. Dites ça à un goujat de 15 ans qui sort de chanter à la crèche. Il regarde l'étoile, il regarde le doigt qui montre l'étoile, il dit oui, il n'a pas compris. Il n'a pas tout compris. Mais quand c'est un homme de mon âge qui mâche et remâche ça pendant des ans, tout seul, et qu'à chaque fois un peu plus de son expérience d'homme s'ajoute à sa réflexion, alors il y a des chances pour que le deuxième sens s'allume comme une lampe. Une étoile, une seule. Et maintenant, regardez la nuit toute inondée d'étoiles. Il y a des forces du monde. Voilà le secret.
Merci à Nina Gandara pour la lecture. Il y a des forces du monde, voilà le secret. Alors, Le Serpent d'Étoiles est un livre assez fantastique. Hein. Dans l'exposition, vous citez aussi un autre passage qui est le poème épique joué par des bergers. Mais on entend là aussi cette phrase, le vrai métier du berger, un seul l'enseigne, le ciel, Enguerrand Lascaux.
Oui, donc... L'exposition, elle avance dans le temps, et à partir du moment où on arrive au 18e, au 19e, au 20e siècle, on s'intéresse à différentes figures qui viennent apporter un regard plus poétique sur le ciel. Et on prend l'exemple des bergers, puisque le Mucem est héritier d'un musée qui s'appelle le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui a existé pendant le 20e siècle, et qui était au Bois de Boulogne, à Paris, qui est un musée qui s'intéressait à la culture populaire et qui a beaucoup étudié les figures du berger. Et le berger, dans la tradition, en fait, il est vu comme une personne qui aurait un rapport particulier au ciel, du fait que voilà, ils vivent dans la nature, seuls. Il aurait un rapport, non pas scientifique au ciel, mais empirique. Il le regarde, il le contemple et il connaît ses cycles petit à petit. Et donc, il y a toute une partie de l'exposition qui s'intéresse à cette figure, qui va mettre en dialogue des œuvres comme une peinture de Camille Corot qui s'appelle « L'étoile du berger », prêté par Musée des Augustins à Toulouse, et qu'on met en dialogue avec des objets ethnographiques, des documents qui montrent ce regard porté sur la figure du berger. Par exemple, on a des calendriers de berger qui sont des ouvrages de la littérature populaire qui étaient diffusés et qui apportaient en fait des conseils venant d'un berger qui va par exemple expliquer quand est-ce qu'il faut se soigner par rapport à telle position de telle planète dans telle constellation, quand est-ce qu'il faut... cultiver son jardin par rapport aux phases de la lune. Donc il y a tout un savoir traditionnel qui serait transmis par cette figure. Juliette évoquait tout à l'heure les vidéos qu'on a produites pour l'exposition. On a mis en dialogue cette vision traditionnelle avec beaucoup de fantasmes, avec un petit documentaire qui a été tourné dans les Baronnies provençales auprès d'un berger qui, lui, est devenu berger de fait qu'il est passionné d'astronomie, donc c'est un peu le sens inverse, qui vient complètement remettre en question tous les fantasmes qu'on raconte, et qui est une personne vraiment fascinante que je vous invite à voir dans l'exposition, mais aller aussi à voir sur le site internet du Mucem, ces vidéos sont accessibles, où on le voit construire ses propres outils d'observation. Il a une connaissance très fine, qu'on pourrait considérer comme scientifique aujourd'hui, très importante du ciel étoilé. Il est également artiste, puisqu'il présente une de ses œuvres dans l'exposition. Donc c'est voilà, une personne assez fascinante qui vient un peu mettre plus de réalité, moins de fantasmes.
Juste en quelques mots, il y a cette dimension quand même aussi très importante chez le berger, mais pas que chez le berger, de voilà, les étoiles aussi pour se repérer. JLD7.
Oui. Pas que chez le berger, on a pris l'exemple de la navigation dans l'exposition, ça nous tenait à cœur, parce que quand on discute des étoiles avec les gens, souvent ils nous disent « mais oui, les étoiles pour naviguer en mer ». Et donc, dans la même démarche de pas vouloir non plus fantasmer les choses, on a trouvé une navigatrice qui nous a dit « mais je ne navigue plus vraiment avec les étoiles, surtout avec le soleil ». Mais on trouvait déjà ça fascinant et on lui a dit « mais de nous raconter ça, comment elle faisait avec les instruments qui sont actuellement encore utilisés sur les bateaux ».
Oui, voilà, elle vous dit que c'est quand même encore utilisé, parce que mine de rien, quand on est un grand navire, par exemple de marchandises ou quoi, si l'électricité, enfin si l'électronique s'arrête, ben il faut quand même savoir encore s'orienter. Juliette Besset, Enguerrand Lascols, commissaire de l'exposition Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée au Mucem. Nous poursuivons cette discussion avec vous dans une quinzaine de minutes, juste après le journal de la rédaction qui arrive.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis jusqu'à 13h, en compagnie aujourd'hui de l'historienne de l'art Juliette Besset et de l'historien de l'art et conservateur du patrimoine Enguerrand Lascols, tous deux commissaires de l'exposition Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée, proposée jusqu'au mois de janvier au Mucem, musée des civilisations de l'Europe et des Méditerranées à Marseille. Nous avons parlé avant le journal de cette histoire de circulation des premières lectures du ciel entre la Mésopotamie, la Grèce antique, le monde arabo-musulman, l'Europe avec la révolution de Copernic puis Galilée. Nous avons évoqué le ciel comme espace de projection, la figure du berger, détenteur d'un savoir du ciel. Nous disions plutôt aussi que longtemps, jusqu'à Galilée, d'une certaine manière, astronomie et astrologie étaient très proches. Du moins, l'astrologie n'était pas alors en marge des sciences. Elle est devenue un système de croyance encore très présente. Comment l'analysez-vous, Juliette Besset, cette présence encore très forte de l'astrologie? Est-ce finalement une autre manière de compter sur le ciel pour nous aider à nous orienter, pas forcément dans l'espace ou dans le temps, mais dans la vie, quelque part?
Bien sûr, oui, c'est vraiment ça. C'est une autre manière de se relier au cours des astres. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 40% des Françaises et des Français qui disent penser que la position des astres au moment de leur naissance a une influence sur le caractère des gens. Donc c'est vraiment un très grand phénomène de société. C'était aussi l'idée de faire cette exposition pour parler de tout ça. Et évidemment, ces liens entre les étoiles et le monde de terrien, il est là dans les cycles végétaux, effectivement. Il n'y a pas de végétaux sans lumière solaire, etc. Et puis, toutes ces approches plus poétiques, plus ésotériques, on leur donne aussi leur place comme un moyen aujourd'hui de se relier au ciel.
Alors, il y a différentes traces de l'astrologie à travers les âges dans l'exposition, de représentation de Nostradamus à la reconstitution du cabinet d'un astrologue des années 70, Enguerrand Lascols.
Oui, tout à fait. Un des enjeux de l'exposition, c'est évidemment d'insister sur les liens qui se tissent, sur les boucles qui vont se jouer entre l'Antiquité, la période moderne, la période contemporaine. Et on a la chance de présenter, dans la partie sur l'astrologie, le cabinet d'un voyant qui s'appelle le Mage Bellin. Le Mage Bellin, c'est un voyant très important de la deuxième moitié du XXe siècle. Il vivait à Paris et qui a été un peu le voyant des stars très connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui, lorsqu'il est parti à la retraite en 1977, a donné tout son cabinet au Musée des Arts et Traditions Populaires, qui à l'époque, donc ce musée ancêtre du Mucem, qui s'intéressait à l'astrologie comme un phénomène de société anthropologique à étudier. Et donc, ils ont acquis tout son cabinet. Et donc là, on le reconstitue pour la première fois au Mucem, au millimètre près. Donc c'est assez émouvant de le voir remonter, puisque on a vraiment l'impression qu'en fait, le Mage Bellin vient de quitter son cabinet. Il y a toujours son calendrier ouvert à l'année 1977, ses petites boîtes de médicaments posées sur le bureau, ses bouquins un peu présentés de manière désordonnée dans son bureau. Et donc, ça fait une sorte de présentation assez... assez singulière, parce que on est dans une exposition assez beaux-arts avec des très belles œuvres, des objets ethnographiques, etc. Et tout à coup, on est face à ce cabinet des années 1970. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a rien de très exceptionnel.
Oui, c'est ça, c'est pas Barnum non plus, quoi.
Non, non. C'est en fait, on a l'impression d'être chez un psychologue des années 70. Il y a des sièges en sky, un mobilier en bois blond. Il y a quelques objets un peu ésotériques, il y a une chouette, une boule de voyance, mais sinon, de manière générale, c'est assez sobre. Et c'est en fait comme ça que Bellin souhaitait se présenter, puisqu'il expliquait qu'il se considérait comme un confesseur des âmes, et il insistait vraiment sur cette dimension psychologique de son métier, en fait, de recevoir des patients auxquels il va interpréter la position des astres selon la naissance, etc., mais qui va vraiment, en fait, permettre de lancer une discussion et de conseiller les personnes.
Aider à s'orienter, on y revient. Il y a aussi d'autres formes de croyances. Par exemple, vous en avez dit un mot tout à l'heure, Jihad Bessette, le lien entre le ciel et le corps, les humeurs. Par exemple, Saturne associé à la mélancolie.
Oui, on a une petite section sur Saturne qui nous est chère en histoire de l'art grâce à une très belle gravure de Dürer qu'on associe à un très beau pastel qui est un dessin d'astronomie de Trouvelot dont on ne sait plus si c'est de l'art ou de la science qui est très beau et une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Saturne. Et puis juste à côté, on présente sur ce rapport entre le corps et les astres une iconographie très amusante de l'homme zodiacal qui est un corps humain sur lequel sont disposés les signes du zodiaque sur chaque partie du corps et chaque signe gouverne une partie du corps. Donc par exemple le bélier gouverne la tête, les gémeaux les poumons, le scorpion le sexe, et c'est quelque chose qui servait, comme l'évoquait tout à l'heure Enguerrand avec les bergers, à préconiser des soins. Et en l'occurrence c'est vraiment une iconographie issue du monde médical et qui permettait de préconiser des soins du corps selon la position des étoiles dans certaines constellations.
Et puis dans ce que vous appelez le ciel populaire, il y a également ceci.
Êtes-vous satisfaite?
À dire vrai, mon père, je ne saurais être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil.
Que signifie? Celle-ci ne brille-t-elle pas du plus bel éclat?
Il se peut, mon père, qu'il y en ait faite de fil d'or et de diamants.
Seriez-vous coquette?
Je ne le suis guère.
Pourquoi jouez-vous ainsi avec moi? Vous aurez cette robe, si vous me dites qu'il s'agit cette fois d'un gage d'amour et non d'un caprice.
Ce n'est pas un caprice, mon père.
Demandez-lui ce que je vous ai dit.
Je ne pourrai pas.
Allez, je vous l'ordonne.
Peau d'âne pour le clin d'œil, puisque les robes couleur de lune et couleur de soleil sont aussi là, Juliette Bessette.
Oui, on a évoqué ce conte de fées qui parle de certains enjeux sombres comme tous les contes de fées. Nous, on en a surtout parlé pour ces couleurs des robes, puisque dans l'intrigue, il y a l'idée de pouvoir ou pas recréer des robes, en l'occurrence, de couleurs de lune et de couleurs de soleil. Et ce qui nous a animés dans cette rencontre, c'est de parler de ce couple, de ces deux astres, comme un couple associé dans l'imaginaire populaire, alors que c'est des astres qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Une étoile, bon, qui n'est pas une très grosse étoile, mais quand même, le soleil. Et puis la Lune, qui est un tout petit satellite très proche de nous. Et voilà, c'est cet imaginaire de l'éclipse qu'on travaille aussi à travers toute une série d'objets. Donc voilà, c'est en effet plutôt un clin d'œil, mais on est content d'accueillir ces objets.
Alors, à partir de début août, ce sont les nuits des étoiles, moment favori des astronomes amateurs. Hein. Sauf qu'on le sait bien, et c'est toute la dernière partie de l'exposition, nous sommes en train de perdre notre rapport, notre accès même au ciel étoilé.
Oui, tout à fait. On évoquait tout à l'heure le fait que, à l'œil nu, sans pollution lumineuse, on voit en gros 3000 étoiles. Et depuis le début du XXe siècle, en fait, il y a une pollution lumineuse de plus en plus forte, et particulièrement autour du bassin méditerranéen, qui est une des régions sur Terre qui est la plus impactée par cette pollution lumineuse. Et aujourd'hui, on estime que dans des villes comme Marseille, comme Jérusalem, comme Alger, on n'en voit plus qu'une cinquantaine. Donc il y a vraiment une perte du rapport visuel au ciel actuellement, ce qui est un peu ce qu'on soulève dans l'exposition, puisqu'on montre qu'il y a cet héritage qui remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, en Grèce, en Égypte, etc. Il y a eu ce rapport au ciel des sociétés du bassin méditerranéen, et aujourd'hui, depuis peu de temps, en fait, on le voit de moins en moins, et on perd ce contact visuel avec les étoiles.
C'est l'astrophysicien Éric Lagadec qui vous dit dans le catalogue, si un enfant naît aujourd'hui dans un endroit où il peut voir 250 étoiles à l'œil nu, quand il aura 18 ans, il ne pourra plus en voir que 100, parce que tout ça s'accélère, et on repense là au début de l'exposition et au début de notre discussion, c'est-à-dire que toutes les premières observations qui étaient faites avec très peu d'instruments. Enfin voilà, on se dit bien que s'ils ont pu voir déjà autant de choses, c'est bien que le ciel n'était vraiment pas le même.
Oui, on a une œuvre d'art contemporain qui parle de ça dans l'exposition qui nous est chère. C'est une œuvre de Thierry Cohen, une photographie d'une série qui s'appelle Ville éteinte, dont le concept est de mettre en rapport des villes, des photographies de villes avec des ciels étoilés. Donc c'est un assemblage de photographies, des ciels étoilés pris exactement à la même latitude, mais à des endroits préservés de la pollution lumineuse. Donc en l'occurrence, nous, on présente une photographie de Venise avec un ciel de Dakota du Sud aux États-Unis, qui est un endroit très peu densément peuplé et très préserver la pollution lumineuse. Et ce que cette image nous permet de voir, c'est le ciel qu'il y a effectivement à Venise sous la pollution lumineuse. Et c'est important pour nous parce que on a toujours comme horizon de référence ce qu'on connaissait petit, et puis ça va continuer. Mais en vérité, ça nous donne à voir ce qu'il y a réellement, ce qu'il y a eu à un moment, ce qui s'efface. Donc on évoque ça à
l'on ne voit plus.
Voilà. Et puis il y a aussi la question des satellites artificiels qu'on évoque aussi à travers une autre série d'œuvres.
Pour terminer, justement, peut-être quelques mots de deux œuvres nouvelles qui sont dans cette exposition, qui ont été créées pour cette exposition. Il y a les aquarelles de Jean Mallard sur la navigation astronomique, et puis il y a une œuvre de Sarah Ouadou qui travaille depuis des années sur le motif de l'étoile et qui là a créé une œuvre avec un titre magnifique, « À la recherche des étoiles, je suis revenue avec des fleurs ». Comment la décrire en quelques mots, Juliette, cette œuvre?
Oui, Sarah Ouadou a travaillé sur un vitrail qui reprend la forme d'une radiotélescope. En fait, Sarah Ouadou travaille sur ce motif étoilé et elle en est arrivée à voir ces radiotélescopes qui ont des formes de paraboles tournées vers le ciel comme des fleurs tournées vers le ciel elles-mêmes. Et nous, dans l'exposition, ça nous tenait beaucoup à cœur de ne jamais quitter le point de vue terrestre. C'était aussi un parti pris idéologique de le faire. Et ça nous tenait tout autant à cœur de finir l'exposition avec un renversement du regard, avec un mouvement du ciel vers la Terre. Et Sarah Ouadou était en train de travailler à ça. Elle n'avait pas encore créé cette œuvre. Et donc, grâce à cette exposition, on a pu produire ce vitrail qui, avec toute une carte mentale qui lui correspond et qui nous parle de ce mouvement de retournement que beaucoup de gens qui regardent le ciel font actuellement.
Et pour préserver un accès au ciel, il y a les réserves internationales de ciel étoilé, hein, en France, dans les Cévennes, par exemple, récemment dans le Morvan. Il y a des critères, bien sûr, il faut faire des choix, hein, sur l'éclairage public, comment on éclaire, à quelle heure on éteint, si on veut retrouver donc un accès au ciel étoilé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Juliette Bessette, merci Enguerrand Lascols, commissaire de cette exposition « Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée » à découvrir au MUCEM à Marseille jusqu'au 5 janvier en partenariat avec France Culture. Et je signale également qu'il y a une très importante programmation autour de cette exposition. Beaucoup d'événements de nature diverse à retrouver sur le site du MUCEM. Merci à vous pour votre écoute et merci aux juilletistes des Midis de Culture, Aïssa Toundoy, Laura Dutèche-Pérez, Nina Gandara, Lisa Dejolle, Léa Weiss-Grus et Zoé Coupé. À la réalisation aujourd'hui, Anna Holweck avec Olivier Bétard et Alban Pelletier. Un salut à Laurence Malonda et à Thomas Beau, ainsi qu'aux techniciennes et techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui et bien d'autres jours. C'était Élise Le